Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, l'agriculture familiale nourrit le monde. Ces exploitations agricoles de tailles diverses produisent 80% des denrées alimentaires mondiales. Malgré ce constat, une idée reçue perdure, elle ne serait pas capable d'être suffisamment productive et compétitive. C'est faux, pas besoin de miser sur d'autres modèles. Par contre, oui, il faut augmenter leur productivité, favoriser la transformation des produits sur place et la circulation des marchandises. À travers de nombreux documentaires et de débats, le Festival alimentaire a informé pendant un mois et demi les citoyens en France et dans une douzaine de pays sur les solutions qui existent pour développer une agriculture et une alimentation durable pour tous. On en parle avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Fanny Darbois.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'animation justement du réseau et du festival alimentaire au sein du CFSI, le Comité français pour la solidarité internationale, qui a organisé ce festival. Alors je le disais rapidement, c'est une sensibilisation à grande échelle.
Oui, effectivement, le festival, donc, c'est sur un mois et demi, ça a lieu dans 12 pays. L'idée, c'est de parler aux citoyens, de leur montrer ce qui se passe à travers ce qu'ils consomment, par exemple en mangeant de la banane. Qui a produit cette banane? Quel impact ça a sur l'environnement? Se poser les questions sur le système agricole et alimentaire actuel et est-ce qu'on peut l'améliorer?
Et c'est nécessaire parce qu'il faut lutter contre les idées reçues. Bonjour Yves Lebar.
Bonjour.
Vous êtes président du CFSI. Donc, et l'un des enjeux, c'est de rappeler, je le disais en introduction, que l'agriculture familiale, c'est quand même le modèle à défendre.
Oui. Vous avez rappelé le chiffre de 80%. Je suis sûr que c'est un chiffre qui est très peu connu. Il y a 3 ou 4 ans, une année de l'agriculture familiale. J'en ai le souvenir que, par exemple, certes, 20% simplement des bananes dessert sont produites dans l'agriculture familiale, mais 90% du riz, 80% du café cacao, seule l'huile de palme est produite pour 40% seulement dans l'agriculture familiale. Mais donc cette agriculture familiale, c'est en quelque sorte le prolongement de la cuisine, d'abord. Elle est là pour nourrir ceux qui la produisent. Mais elle sert aussi, justement, et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir consolider, favoriser une bonne commercialisation, un bon stockage, hein, parce qu'il y a quand même 30% de la production alimentaire qui est gaspillée.
Qui pourrit sur place, on peut dire.
Qui pourrit sur place par défaut de stockage dans les pays du Sud et qui pourrit dans nos poubelles dans les pays du Nord.
Parce qu'on en achète trop.
Parce qu'on en a, voilà.
Bonjour Émile Frison.
Bonjour.
Vous êtes membre du panel international sur un système alimentaire durable. Alors je vous laisse présenter ce panel en quelques mots que vous avez fondé.
C'est un panel qui a été créé avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso pour augmenter la visibilité des questions des systèmes alimentaires durables. Peu de décideurs se préoccupent de ces systèmes, or c'est notre avenir qui en dépend. Et donc ce panel a été mis en place il y a 3 ans pour mettre en avant un certain nombre de réalités qui feront réfléchir les décideurs sur la nécessité d'apporter des changements dans nos systèmes alimentaires et y compris dans nos systèmes de production agricole.
Alors vous avez publié un rapport, hein, l'IPES Food, qui est arrivé à la conclusion qu'il y a aujourd'hui suffisamment de données scientifiques pour pouvoir affirmer qu'une transition vers des systèmes agroécologiques diversifiés portée par des exploitations familiales peut changer la donne de façon spectaculaire.
Absolument. On entend souvent qu'en 2050, nous serons 9, voire 10 milliards. Et implicitement, certaines personnes qui ont intérêt à faire continuer ce mirage disent « Et pour cela, il faut continuer à intensifier l'agriculture de modèle industriel, mettre toujours plus d'engrais et de pesticides. Sinon, on ne pourra pas nourrir le monde. » Or, comme notre rapport l'a démontré, des modèles alternatifs existent et ont démontré leur capacité non seulement à nourrir le monde, mais à le faire bien mieux que ce qui se fait à l'heure actuelle, où on voit de plus en plus de problèmes de dégradation de sol, de problèmes de santé, de problèmes de durabilité du modèle agricole lui-même.
Et donc ces modèles, c'est quoi? Principalement l'agroécologie ?
C'est premièrement basé sur une diversification. Ce qu'on voit aujourd'hui avec le changement climatique, c'est déjà une plus grande fréquence et une plus grande intensité des phénomènes climatiques extrêmes. Et cela nécessite d'augmenter la résilience et la stabilité des systèmes de production. Et ça peut se faire efficacement en diversifiant, en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier. Mais d'un autre côté, également, au lieu de remplacer ce qui se fait dans la nature par des intrants externes et contrôler un environnement en le rendant artificiel, c'est de comprendre ce qui se passe en nature et de l'appliquer à l'agriculture. Et ça s'appelle l'agroécologie, en effet. Et ça permet d'avoir une meilleure utilisation de l'eau, une meilleure utilisation des éléments nutritifs des plantes et surtout de produire une alimentation saine et diversifiée.
Et Yves Le Bars, ça permet aussi une indépendance hein, des paysans. Alors, qu'est-ce qui empêche ces modèles de se développer aujourd'hui ?
Alors, je crois qu'il y a d'abord le poids des habitudes. Et il faut que des systèmes de conseil puissent être mis en place à proximité des agriculteurs dans la durée, avec un certain nombre d'expériences. Par exemple, au sud de Madagascar, j'ai vu, à 3 ans de différence, une terre qui était quasiment un terrain de tennis, balayée par le vent, bordée de cactus, transformée en un champ d'une grande richesse par la plantation de haies et du sorgho entre rangs et d'autres semences adaptées et produites dans une ferme à proximité. Le fait d'avoir réalisé ça par-dessus la haie, les autres voient et peuvent en profiter.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons de l'importance de mettre en avant des modèles agricoles durables qui préservent l'environnement et garantissent une croissance économique dans les pays en développement. Alors nous avons vu que le modèle à soutenir est l'agriculture familiale avec des systèmes d'exploitation entre autres agroécologiques. Encore faut-il pouvoir les mettre en place et les soutenir et c'est votre combat, Ndaïm Bitiandone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élue municipale au Sénégal, près de Dakar, et vous coordonnez des marchés de proximité en proposant des aliments sains en circuit court avec votre coopérative Selselal. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette coopérative ?
La coopérative Selselal est composée de 5 fédérations au niveau du Sénégal. Et cette coopérative-là est accompagnée par une ONG qu'on appelle Endapronat. C'est des organisations de paysannes qui ont un problème de commercialisation des produits sains et durables, sans engrais ni pesticides. Et on a accompagné les producteurs dans l'agriculture saine et durable. Et il y a un problème de commercialisation de ces produits-là. Sinon, on allait les amener dans les marchés conventionnels. C'est en ce sens qu'on a créé cette coopérative qu'on appelle la coopérative Selselal, qui a différents points de vente au niveau de Dakar, donc il y en a plusieurs. Actuellement, il y en a 4 points de vente qui sont très fonctionnels. Donc, dans cette coopérative-là aussi, l'organisation se fait autour des producteurs. Donc, moi, je suis animatrice d'une fédération. Donc, j'accompagne cette commercialisation de ces produits-là.
Alors, vous travaillez à peu près avec 50 exploitations familiales. En fait, vous faites le lien en circuit court entre les producteurs qui produisent donc, vous le disiez, des légumes sans intrants chimiques et des consommateurs qui ont envie de consommer plus sain. Il y a une vraie tendance, une vraie demande pour ces produits ?
Il y a une vraie demande en ces produits-là parce que la production saine est meilleure pour la santé. Et moi, je suis productrice.
Qu'est-ce que vous produisez, vous ?
Moi, je produis des céréales, comme le mil, il y a le niébé. Donc, ce sont des consommations locales aussi.
Et on peut donc les produire, dites-le bien sur l'antenne de RFI, sans produits chimiques.
On produit ces fruits et les céréales et d'autres sans mettre de l'engrais chimique ni de pesticides. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur aussi pour l'environnement aussi.
Et pour le porte-monnaie ? Parce que ça coûte cher, les intrants chimiques.
Les intrants chimiques, ça coûte très cher. Donc, par rapport à l'agriculture saine et durable, il y a moins d'investissement dans ce sens.
Est-ce que vous avez eu du mal à convaincre les agriculteurs de changer de méthode de culture ?
Au début, ce n'est pas du tout facile. Donc, il faudra beaucoup de sensibilisation et beaucoup de formation à ces producteurs-là aussi.
Oui, vous faites la preuve par l'exemple?
Moi, je suis productrice. Née dans cette famille aussi, ma mère n'a jamais utilisé de l'engrais chimique, donc je ne connais pas. Je le connais à travers les médias et les pesticides, il faudra les acheter. Mais aussi, on peut utiliser nos propres productions pour faire le traitement sans acheter, aussi utiliser des produits comme le neem. Chez nous, on peut utiliser les feuilles, le sang, les acétés aussi, donc ça fait de l'économie.
Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui?
Au niveau des États, l'agriculture bio n'est pas subventionnée.
Il y a un manque de soutien politique.
Il y a un manque de soutien de nos autorités aussi de cette agriculture-là. Et au niveau des semences aussi, et surtout au niveau de l'eau, donc il y a des problèmes d'eau dans les zones aussi. Au niveau de la commercialisation, il y a des problèmes aussi au niveau de... Parce qu'on ne parvient pas à vendre tous nos produits. Donc,
pourquoi?
Oui, on ne parvient pas à vendre tous nos produits. Donc, il y a une idée de faire des transformations de ces produits-là aussi.
Et pourquoi vous n'arrivez pas à tout vendre?
Parce qu'il y a beaucoup de producteurs et les marchés de Nice ne peuvent pas consommer toutes les récoltes des producteurs. Donc, il faudra ouvrir d'autres portes à d'autres régions.
Donc, vous avez besoin de soutien politique et puis d'investissement pour davantage développer votre activité.
On a besoin du soutien politique de l'État. Il y a aussi l'appui des autres ONG aussi qui peuvent nous accompagner aussi dans le cadre de l'État, dans le cadre de l'eau. Il y a la sensibilisation, augmenter la valorisation de ces produits-là, la transformation et beaucoup de sensibilisation surtout.
Merci pour ce témoignage, vous restez avec nous. Autre pays, même combat. Bonjour Thaïs Silva Mascarenhas.
Bonjour.
Vous êtes brésilienne, alors c'est Fanny Darrois qui va assurer votre traduction, merci pour cela. Alors Thaïs Silva Mascarenhas, vous travaillez à l'Institut Queiroz, c'est une ONG qui se trouve à São Paulo, au Brésil. Et vous coordonnez un réseau de 30 chaînes d'approvisionnement alimentaire biologique gérées par les consommateurs et réparties dans tout le pays. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Bueno, el Instituto Queiroz es una ONG que
Donc, l'Institut Queiroz travaille sur l'agroécologie et puis sur l'économie sociale et solidaire.
Entendemos el consumo como
de una manera integrada. On comprend en fait la consommation de manière intégrée depuis la production jusqu'à la commercialisation.
Y entonces empezamos hace algunos años a trabajar con los grupos de consumo responsable.
Il y a quelques années, on a commencé avec des groupes de consommation responsable.
Que son iniciativas de consumidores. Preocupados con su alimentación y con
donc en fait, ce sont des groupes de citoyens, de consommateurs qui en fait sont préoccupés des enjeux sociaux et environnementaux et qui du coup cherchent des producteurs pour se fournir directement auprès d'eux.
Et donc vous faites le lien entre les producteurs qui là aussi produisent sans produits chimiques de manière durable et les consommateurs qui souhaitent acheter ces produits.
Estos grupos de consumo hacen esta...
Ce sont les propres groupes de consommation qui font ce lien entre les consommateurs et les producteurs.
Y nosotros en Queiroz hacemos un fortalecimiento de la articulación de estos grupos.
Ce qu'on fait en tant qu'Institut Queiroz, c'est justement d'animer ces groupes de consommateurs, de faire qu'ils échangent entre eux pour améliorer leurs pratiques.
Alors, dans un pays comme le Brésil, ce n'est pas évident, il y a quand même une grande concentration des terres. Hein. 15% des agriculteurs détiennent 75% des terres cultivables. Donc, on défend le modèle de l'agriculture familiale, mais en termes de terres, il leur reste que 25%.
L'agriculture familiale, à pesar de tenir 24% de l'area agricole.
Donc 25% en fait, donc ces agriculteurs, même s'ils sont sur, ils utilisent 25% des terres, ils fournissent 75% de l'alimentation des villes, notamment avec des haricots et du maïs.
Et là, c'est là, Yves Le Barce, où finalement on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire peu de surface, mais une grande productivité.
Oui, une très grande productivité. Alors effectivement, pas mal de main-d'œuvre. Et dans le fond, c'est aussi des emplois. Et des emplois qui méritent d'être préservés, quoi.
Oui, il y a des emplois non délocalisables, pour le coup.
Voilà, exactement. Donc, on peut tirer quelques leçons de ce qu'il vient de dire, en particulier de ce que vient de dire Mme Dionne. La commercialisation va devenir un vrai combat dans les pays en développement, parce qu'ils risquent de tomber sur les modèles européens de concentration des achats et de quelques grandes surfaces. Encore hier, j'étais au Congo-Brazzaville. À Brazzaville, il y a un très grand supermarché qui s'est installé. Et donc, on voit bien, ou je sais qu'au Brésil, la vente dans les supermarchés est déjà très importante. Et donc, on s'éloigne de ce fait des modèles qui nous paraissent importants. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que le CFSI a un programme pour favoriser, permettre et travailler la question qu'on appelle ça nourrir la ville avec l'agriculture familiale. Et cette question de la commercialisation, c'est aussi créer des emplois en milieu rural pour la transformation. C'est un combat aussi, parce que c'est ça aussi, hein, comment faire en sorte que le consommateur urbain redécouvre la valeur à la fois nutritive et culturelle, hein, des produits locaux. Et ça, je pense qu'on ne se rend pas compte que c'est un combat. Et alors là, par exemple, on a aidé un groupe de femmes qui vendent du manioc transformé des Dougous, là, en Burkina Faso. Elles ont recruté un spécialiste du marketing.
Et oui, c'est essentiel. Émile Frison, comment réagissez-vous à ces témoignages ?
Ben, je voudrais souligner un autre point, c'est que l'agriculture, même l'agriculture familiale, est en train de se modifier fortement à cause des politiques gouvernementales qui sont mises en place et elles-mêmes souvent influencées par des politiques de coopération au développement qui ont tendance à focaliser toute l'attention sur quelques grandes cultures, principalement les céréales et les racines et tubercules comme le manioc, la pomme de terre, etc., qui sont des aliments qui apportent beaucoup d'énergie, mais qui sont en fait pauvres en micronutriments et contribuent de façon significative à une transition nutritionnelle. Il manque un appui aux cultures traditionnelles et à la diversité qui existait dans beaucoup de petites exploitations, mais il y a peu de recherche qui se fait sur ces filières. Et les programmes de développement également les laissent de côté. Et ça, c'est un des facteurs qui contribue à la transition alimentaire qui a des conséquences très graves. C'est une concentration de plus en plus grande d'aliments riches en énergie, mais pauvres en nutriments, qui causent notamment des problèmes de surpoids et d'obésité, même de façon importante maintenant dans les pays en voie de développement. Et on voit que dans les pays à moyens et faibles revenus, il y a plus de cas de maladies non transmissibles qui sont la suite de cette transition alimentaire. Et donc, il faut également repenser le modèle agricole en fonction de ce qui se passe dans cette transition alimentaire et aller à l'encontre en diversifiant et en remettant en valeur beaucoup de cultures traditionnelles. Et évidemment, comme l'ont dit plusieurs intervenants, de mettre également en place des moyens de transformation locale et de commercialisation plus directe afin d'assurer cette alimentation de qualité au niveau local.
Restez sur RFI, juste après le flash d'info, nous parlerons des conséquences de la mondialisation de notre alimentation. Nous parlerons notamment de la filière de la banane au Cameroun et au Honduras. À tout de suite.
Message, hommes et femmes du Sahel, si chacun de nous plante un arbre à la naissance d'un enfant, le protéger comme l'enfant, le Sahel deviendra vert.